Culture, il est 15h. Culture Société, Marie-Hélène Freissé.
Bonjour, c'est Tout un monde, le magazine des cultures. D'outre-temps, pour terminer l'année, nous partons traverser l'Asie au temps de l'Empire mongol, qui se trouve alors au sommet de sa gloire, et ce, en compagnie d'un franciscain du XIIIe siècle qui n'avait pas froid aux yeux, Jean de Plancarpin, envoyé du pape et revenu bien vivant d'innombrables péripéties. Tartare, un nom qui aura fait frémir les populations de l'Europe et de l'Asie pendant des siècles. Les Tartares, les vrais, on ne les attendait pas interminablement à l'abri d'un fort dans le recoin occidental d'Asie qu'on nomme Europe, en guettant l'horizon désert comme dans le fameux roman de Buzzati. Ils ont bel et bien existé et ils ont établi pendant un siècle au moins le plus puissant empire à la surface de la Terre. En l'an de grâce 1245, un frère franciscain, Jean de Plancarpin, part vaillamment à leur rencontre à la demande du pape Innocent IV, inaugurant ainsi, du moins officiellement, la route de la soie continentale, celle qui traverse les steppes jusqu'à la Chine. Plancarpin, qui sera suivi plus tard par des voyageurs plus célèbres comme les frères Polo. Une entreprise de contact hors norme et aussi une mission diplomatique à très haut risque auprès de Gugyuk. C'est le petit-fils de Gengis Khan, et avec pour résultat de cette mission de Plancarpin une étonnante collecte d'informations de terrain, mais aussi plein de monstres et de merveilles qui vont peupler durablement l'imaginaire médiéval. Ce voyage de Plancarpin, puisqu'il l'a raconté, c'est l'un des grands classiques un peu oublié de la littérature de voyage. Et merveille, il vient de reparaître grâce à vous, Thomas Tanaz. Bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle « Dans l'Empire mongol », publié aux éditions Anacharsis. Alors c'est vous qui avez eu l'idée de republier ce voyage. Vous êtes historien, vous êtes passé par l'école française de Rome, et vous êtes traducteur du latin. Et un jour, vous avez eu envie de nous faire connaître et de nous donner les clés, hein, autour de ce récit quand même qui est très loin de nous dans l'histoire, dans le temps et dans la sensibilité aussi.
Oui, en fait, j'ai eu envie de le retraduire. Cela vient du fait que j'ai fait une thèse sur la papauté et les missions franciscaines de l'Asie de Marco à Christophe Colomb, où j'ai essayé de montrer l'importance du goût pour l'ailleurs et de la volonté de découvrir une Asie plus lointaine que ce que les Européens connaissaient au XIIIe siècle, c'est-à-dire le monde musulman. Donc évidemment, tout le monde connaît Marco Polo, mais on oublie qu'il y a eu aussi des franciscains à la même époque. À l'époque de Marco Polo, il y a un franciscain, Jean de Monte Corvino, qui s'installe dans ce qu'ils appelaient à l'époque Canbalik, la ville du Can, qui était en fait la ville de Pékin. Mais alors, une génération avant Marco Polo, le premier contact avec cette Asie plus lointaine a été prise par le frère franciscain Jean de Plancarpin, qui a été envoyé par le pape Innocent IV pour faire la découverte de cet empire mongol. En fait, ça n'était pas désintéressé. Ça venait du fait que les Mongols venaient d'attaquer l'Europe en 1241, qu'ils avaient frappé jusqu'au cœur de l'Europe, jusqu'en Hongrie. Ils étaient arrivés jusque sur les rivages de l'Adriatique. Puis qu'ils s'étaient retirés, mais ils s'étaient quand même installés sur ce qui serait aujourd'hui le sud de l'Ukraine, les terres russes, où ils avaient installé leur domination. Donc évidemment, les Européens et la papauté avaient peur d'une nouvelle attaque. Donc, le pape Innocent IV a envoyé plusieurs groupes de frères, en fait, mais notamment ce frère franciscain qui lui a réussi à aller jusqu'au cœur de la steppe et jusque chez le grand Khan Gugyuk pour porter des lettres diplomatiques et faire un échange diplomatique. Et puis aussi, comme le dit Plancarpin dès le début, pour observer et noter tout ce qui se passait, comment vivaient les Mongols et puis surtout comment ils étaient organisés et comment ils se battaient. Et c'est ce récit après que Plancarpin a dicté, qui a circulé à travers les cours européennes, qui n'a jamais été complètement oublié, mais qui a été moins connu ou qui n'a pas connu la célébrité d'un Marco Polo. Et donc c'est ce récit que j'ai voulu retraduire pour un peu le faire redécouvrir dans une traduction facile à lire, je l'espère en tout cas.
Alors ce Plancarpin, qui est-il quand même? Quelques mots sur lui, c'est un homme de quel âge quand il décide d'accepter?
Il a une bonne cinquantaine d'années, ce qui déjà montre l'exploit de... Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un franciscain presque de la première génération. C'est aussi ce qui explique d'une certaine manière le succès qu'il a eu. C'est-à-dire que c'est un franciscain qui a connu Saint-François, qui a connu l'époque de Saint-François, donc qui a connu les débuts de l'ordre franciscain, qui a été très touché par l'idéal de pauvreté de Saint-François. Et ensuite, il a déjà eu d'une certaine manière une première vocation missionnaire, puisque c'est un des franciscains qui ont permis à l'ordre de s'implanter dans les terres germaniques et en Europe centrale. Et pour un franciscain originaire de l'Italie centrale, arriver dans les terres germaniques, c'était déjà un certain dépaysement. D'ailleurs, on a des chroniques qui montrent comment ça a été très difficile pour les franciscains de s'installer dans ces régions. Mais du coup, il connaissait aussi le monde slave, c'est-à-dire qu'il connaissait la Bohème, qu'il connaissait le monde polonais, ce qui lui a permis d'avoir aussi des contacts avec le monde russe. Il est envoyé comme émissaire par le pape, justement parce qu'il a ces contacts qu'il va savoir utiliser après pour pénétrer dans le monde mongol, puisque les Mongols avait réussi à soumettre l'ensemble des principautés russes et que dans les cours mongoles, on trouvait toutes sortes de princes, de clercs, de militaires, de Russes qui se trouvaient là-bas.
Alors comment va-t-il définir son itinéraire ? Parce que ce n'est pas évident, il va être obligé d'utiliser en fait les circuits de caravanes, mais les caravanes circulaient de proche en proche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement personne qui faisait la totalité de l'itinéraire.
Absolument. En fait, il ne suit même pas exactement les circuits de caravanes qui seraient passés plus par l'Asie centrale. Lui, il va passer un peu plus en nord. C'est pour ça que ces relations sont très importantes. Il va chez les princes polonais qui le recommandent aux princes russes. Et ce sont les princes russes en fait qui vont l'envoyer à la cour du Khan mongol qui dominait, ce qui après est devenu la Horde d'Or, qui dominait les terres russe, Batou. Et donc c'est à travers par cet intermédiaire-là et de la Volga qu'il va arriver jusqu'à la cour mongole, finalement en suivant les itinéraires mongols.
Alors dans le projet, il y a aussi quelque chose que le pape avait en tête, c'est qu'il savait qu'il y avait des chrétiens en Asie qui étaient des chrétiens d'une obédience non reconnue, les Nestoriens. C'est une Nestorius, c'est une hérésie de quelle époque?
En fait, ça date du 4e siècle, au moment où l'église chrétienne s'impose dans l'Empire romain, il y a des conflits et en fait l'église qui s'impose est aussi celle qui était de culture gréco-romaine, qui était définie à Constantinople et à Rome. Il y a d'autres églises qui, souvent, ça se croise avec d'autres formes de culture. Il y a une église qu'on appelle l'église nestorienne parce qu'elle suivait la prédication d'un prêtre qui s'appelait Nestorius, qui était très fort dans les terres syriaques. Donc c'était une autre culture, ce qui a donné naissance à la culture syrienne d'aujourd'hui. Elle a été expulsée de l'Empire, elle s'est installée en Perse, mais en s'installant en Perse, en fait, elle s'est ouverte les routes de l'Asie. Donc elle est présente en Chine déjà au 7e et au 8e siècle. Après, la Chine se ferme un peu, mais grâce à cette pénétration le long des routes de l'Asie, elle a pu arriver jusqu'auprès des peuples de la steppe et de toutes les tribus ou de tous les peuples qui ont été soumis par Genghis Khan et qui ont été fusionnés par Genghis Khan dans ce qui est devenu l'Empire mongol.
Genghis Khan qui les tolérait, qui
Genghis
tolérait
Khan
les chrétiens.
Qui faisait plus que les tolérer. Mais il tolérait tout, Genghis Khan, du moment qu'on se soumettait au pouvoir mongol, bien entendu. C'était ça la seule chose qui n'était pas tolérée. Mais il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait après des bouddhistes à la cour des successeurs de Genghis Khan. En fait, on se rend compte de l'importance des Nestoriens avec un exemple très simple. Tout le monde connaît Marco Polo. Donc Marco Polo est allé voir Kubilai qui, à l'époque, régnait en Chine. On comprend très facilement l'intérêt de Kubilai pour Marco Polo et pour les chrétiens si l'on se rappelle que la mère de Kubilai, la princesse Sor Caktani, était une chrétienne nestorienne qui était issue d'un de ces peuples chrétiens qui s'était soumis à Genghis Khan.
Alors l'idée du pape, c'est de les ramener vers la foi catholique. Quelle est son idée?
Je pense que l'idée du pape est d'abord d'observer les Mongols et de se prémunir contre une nouvelle attaque. Donc c'est d'abord ça que doit faire Plancarpin et éventuellement de négocier en chemin avec ces chrétiens orientaux qui auraient pu, le cas échéant, donner des informations. D'ailleurs, c'est ce que font les Russes pendant tout le trajet de Plancarpin. C'est ce qui permet à Plancarpin de connaître si bien les Mongols et éventuellement pouvoir les travailler un peu pour avoir des désertions au bout du compte. Thank you.
Au pays des Tartares, l'incroyable voyage du frère Jean de Plancarpin en l'an de grâce 1245. Nous sommes en compagnie de Thomas Thanase sur France Culture, dans tout un monde. Alors peut-être Thomas Thanase, puisque vous publiez chez Anacharsis dans l'Empire mongol, donc le récit de Plancarpin, accompagné de quelques annexes, quelques détails sur les conditions matérielles de ce voyage, qui semble pour l'époque incroyablement aventureux, mais que finalement il va faire sans trop de difficultés. Il voyage comment? À pied? À cheval? Est-il accompagné? Comment procède-t-il?
Alors, il est accompagné, il y a au moins un frère polonais qui va avec lui, et en fait, il lui sert à faire de la traduction, puisqu'on pouvait passer sans problème de ce qu'on parlait en Pologne à ce qu'on parlait en Russie, dans les principautés russes à l'époque, c'était à peu près la même langue. Et donc, ce frère va traduire du latin en russe à la cour des Mongols, et puis après, on passera du russe aux Mongols. Et ensuite, il voyage à cheval. En fait, les Mongols, c'est ce qui leur avait permis de tenir leur empire, avaient mis en place tout un système de postes, tout un système de relais, qui permettait aux envoyés du Khan, ou bien à ceux qui allaient le visiter, de traverser la steppe à une très grande vitesse. C'est Plancarpin le raconte d'ailleurs. Il dit qu'il a été étonné par la vitesse de son trajet et il se plaint même un peu des conditions parce qu'il dit qu'il n'avait absolument pas le temps de se reposer. Quand ils arrivaient à une étape, ils changeaient de chevaux et ils repartaient. Et il n'y avait jamais de pause. Il y avait juste un tout petit peu de nourriture à un moment de la journée qui, pour notre franciscain habitué à la manière de manger européenne de l'époque, trouvait que c'était vraiment trop frugal et qu'en fait, avec ce qu'on donnait pour quatre personnes, en fait, pour lui, cela suffisait à nourrir seulement une personne. Donc il a souffert de faim, de froid, dans au cours de son trajet, il le raconte.
Et on peut imaginer comment il se prémunissait donc, contre ces conditions de température. Il était couvert de fourrure.
Oui, et puis pour apparaître à la cour mongole, il fallait aussi des costumes. Donc il a revêtu des costumes d'ambassadeur, quelque chose d'assez différent de sa robe de franciscain. On peut faire le contraste avec l'autre grand franciscain qui est parti à la cour mongole une dizaine d'années après Plancarpin, Guillaume de Rubruck, qui lui a voulu rester fidèle à l'esprit franciscain. Donc il a voulu aller les pieds nus dans la steppe mongole l'hiver. Oula. Il a été obligé de changer d'avis après avoir eu les doigts de pied gelés. Mais on voit le genre d'effort et de sacrifice que cela demandait.
Alors, il dormait le soir dans les caravansérails. On peut imaginer que le système des caravansérails existait, non?
Il existait, mais comme ils sont passés beaucoup plus au nord et comme ils ont suivi les routes mongoles, non, ils dormaient sur place. Plancarpin raconte même comment à certains moments, on faisait un trou dans la neige et ils dormaient dans la neige. Il n'y avait pas le temps de se reposer.
Alors, quel est l'itinéraire, en gros, donc à travers l'Eurasie? Puisque oui. Ce qu'on découvre aussi, qui est passionnant, c'est que déjà, pour cette époque, l'Eurasie, c'est une entité. Et que nous, on pense souvent Europe, mais l'Europe n'est que l'extrémité occidentale.
Et c'est comme ça que les Mongols voyaient l'Europe. Et c'est le cœur de l'échange entre le pape et le grand Khan qui est très amusant. Mais sur les trajets, en fait, il y avait des routes de caravanes, mais qui passaient beaucoup plus par la Perse ou par l'Asie centrale. Ici, Plancarpin passe par les principautés russes, il passe par Kiev, ensuite il arrive vers la Volga, et il va sur une route beaucoup plus au nord. Il passerait par ce qui est le Kazakhstan d'aujourd'hui ou le sud du Kazakhstan d'aujourd'hui pour arriver et remonter directement jusqu'au cœur de la Mongolie. Donc il prend la route des steppes beaucoup plus que la route des oasis d'Asie centrale qui était la route des caravanes traditionnelles.
Alors ça va lui prendre combien de temps de faire cette traversée?
Eh bien, l'ensemble du trajet entre le temps de départ et le moment de l'arrivée, il y en a pour plus de 2 ans. Mais en fait, il a pris beaucoup de temps en Pologne, dans les principautés russes, pour prendre le temps de préparer son voyage. Ensuite, il part en février 1246, il part des principautés russes, il part de Kiev et il arrive à l'été chez le grand Khan Güyük. Donc ça donne à peu près l'idée du trajet qu'il fallait pour arriver chez le grand Khan.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Freissé.
Aujourd'hui, tout un monde voyage en compagnie du frère franciscain Jean de Plancarpin à travers l'Asie en l'an de grâce 1245. Et là, ce qu'on entendait, c'était la grande porte de Kiev dans les tableaux d'une exposition de Moussorgski. Vous nous racontiez, Thomas Tanas, donc qu'il part de Kiev et puis il chevauche à travers cette Asie. Alors, dans le récit que vous publiez dans l'Empire mongol aux éditions Anacharsis, on s'aperçoit que ce frère a un talent pour décrire. C'est un bon reporter, en quelque sorte, pour décrire les peuples qu'il rencontre, les gens, les mœurs. Il est d'ailleurs assez ouvert, assez tolérant. C'est presque une sorte d'ethnologue avant la lettre.
C'était très exactement ce que je voulais dire. Moi, je parlais de récits d'anthropologie avant la lettre, mais il y a du Claude Lévi-Strauss chez lui. En fait, ce qu'il faut comprendre pourquoi il observe si bien, c'est qu'il fait un travail d'information. Ce n'est pas désintéressé, il faut connaître les Mongols pour pouvoir éventuellement se prémunir contre une nouvelle attaque. Et il a des informateurs, tous ceux qu'il rencontre dans les cours mongols, et notamment tous les Russes qui circulaient par là et qui vont l'informer, tellement qu'on voit que souvent, pour donner le nom de Khan mongol, par exemple, ou de chef mongol, il utilisera la prononciation russe. Donc il a cette capacité à observer. Et
alors il les décrit justement comme des gens à la fois très raffinés par certains aspects et très brutaux, cruels, sans éducation. Donc c'est vraiment le contact avec l'autre dans le trouble que ça suscite chez un homme formaté par la foi chrétienne du XIIIe siècle.
Oui, mais parce que c'est le grand thème de ce voyage. C'est cela qui est fascinant. Il parle des Mongols et c'est le peuple nomade par excellence, habitué à une vie très rude et puis qui a fait des conquêtes avec une férocité terrible. En fait, ils ont une mentalité de chasseurs et lorsqu'ils font la conquête et qu'ils sont obligés de se battre contre des êtres humains, ils utilisent exactement les mêmes techniques qu'à la chasse et il n'y a pas de problème pour massacrer. Donc ça, c'est un aspect qui, effectivement, pour Plancarpin, va sembler plus choquant. Mais les Mongols ont aussi réussi à faire un immense empire qui brasse toutes les populations asiatiques. Ce qui fascine Plancarpin, c'est que lorsqu'il arrive à la cour du Grand Khan, il voit des émissaires de Bagdad, il voit des Géorgiens, il voit des Russes, il voit toutes les populations d'Asie centrale, il voit toutes les populations de la steppe, il voit des Chinois, il voit des Coréens. Et c'est cette fascination pour un immense empire qui a été capable de brasser des populations entières qui est importante. Et le moment Plancarpin est très important parce qu'on voit ce moment où un émissaire de la papauté rencontre pour la première fois l'Asie dans toute sa dimension. C'est le moment où les Européens se rendent compte que l'Asie est beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient imaginé et que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Ils vont commencer à être fascinés par ce monde et à vouloir aussi un peu l'intégrer à leur cadre de pensée, à vouloir le convertir au christianisme et éventuellement à vouloir l'annexer à la chrétienté occidentale.
Et alors il analyse, comme va le faire aussi Marco Polo plus tard, justement, le système politique qui est très différent d'un système occidental qu'a instauré le Grand Khan. Parce que cette entité, elle tient pendant combien de temps l'Empire mongol dans sa splendeur? C'est deux siècles pratiquement.
Non, en fait, l'Empire dans son unité, c'est un demi-siècle. Ce que Plancarpin commence déjà à annoncer, c'est qu'au sommet du pouvoir mongol, il y a des disputes et que l'Empire ne va pas tarder à se diviser. C'est ça qui a sauvé l'Europe d'ailleurs d'une nouvelle attaque. Mais le monde mongol, les puissances issues de cet empire qui se décompose, oui, elles vont durer encore au moins un bon siècle, puisqu'à partir de cet empire uni, il y aura la Horde d'Or qui, alors, elle, dure jusqu'au XVIe siècle, il y aura un empire mongol de Perse, il y aura un empire mongol d'Asie centrale, et puis surtout, il y aura un empire mongol qui va réunifier la Chine et dominer toute la Chine, Kubilai étant le grand Khan, Kubilai qui va choisir comme capitale Pékin, et donc l'empire mongol dure en Chine jusqu'en 1368, mais une Chine unifiée avec Pékin comme capitale, ça c'est un héritage de l'Empire mongol.
Alors ce qui est fascinant dans le regard de Plancarpin, et on le découvre aussi chez ses successeurs et chez Marco Polo, et bien plus tard aussi au XVIe siècle, quand on découvre le Nouveau Monde, c'est à la fois des informations précises sur les peuples, et puis en même temps, la recherche, et parfois ils prétendent avoir trouvé et vu, la recherche de peuples complètement fantasmatiques. Donc on est un peu troublé parce qu'on a à la fois le reportage qui est clair, qui est bien fait, qui est un esprit assez large, il y a une forme de tolérance. Et puis alors, on part dans des délires où il y a des hommes à tête de chien, des hommes buveurs de fumée. Mm-hmm. Ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc, c'est assez étonnant, on a l'impression, et c'est quelque chose qu'a analysé Umberto Eco en parlant de la recherche des licornes, c'est que finalement, il y a des modèles cognitifs qui déterminent le regard.
Oui, en fait, les licornes, on les retrouve chez Marco Polo, qui explique que la licorne, ça existe, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est un rhinocéros. En fait, il y a un chassé-croisé entre Plancarpin et Marco Polo. Pour faire comprendre ça, on peut prendre Marco Polo, c'est un récit qui est littéraire, en fait. Ce n'est pas un récit de voyage, Marco Polo. Marco Polo fait une encyclopédie dans laquelle il raconte à quoi ressemble le monde dans un langage très littéraire qui est celui des chevaliers de l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit en français à l'origine.
Et puis, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Donc
il l'a écrit avec, effectivement, Rusticello de Pise. Tandis que Plancarpin, lui, fait un récit beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus ethnologique sur un peuple en particulier. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le récit de Plancarpin est beaucoup plus facile à lire pour nous aujourd'hui et beaucoup plus direct que le récit de Marco Polo qui emploie beaucoup de figures littéraires. Alors, une fois qu'on a dit ça, Plancarpin est un observateur qui fait un récit beaucoup plus précis et beaucoup plus direct que Marco Polo, sauf que sur la question des peuples monstrueux, Plancarpin parle de tous ces peuples. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi il en parle, c'est pas une projection de l'imaginaire médiéval occidental comme on pourrait le penser, c'est qu'il a entendu parler de tous ces mythes auprès des peuples asiatiques, parce qu'ils circulaient, ils existaient dans la culture byzantine, et dans la culture arabe, et dans les cultures indiennes, et dans les cultures turques, mongoles, et dans la culture chinoise, et la manière dont Plancarpin en parle montre que c'est les versions qu'il a entendues à la cour mongole qu'il rapporte, en faisant le lien avec les traditions de l'Antiquité qui s'étaient gardées dans les manuscrits et dans les récits recopiés par les moines médiévaux.
Donc sont des rumeurs, en fait.
Voilà, en fait, c'est plus que des rumeurs. Il raconte ce qu'il a entendu. D'ailleurs, c'est très intéressant, ce qui montre que les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas si crédules que ça, c'est que Plancarpin fait un récit direct, donc il nous décrit la manière de se battre des Mongols. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais quand il parle de ça, il précise bien où il l'a entendu et quelle est sa source, parce qu'il savait que c'était une source d'incrédulité. Voilà. Et il dit qu'il a dit en général, pour bien montrer que ce n'est pas lui qui l'a inventé, qu'il sait bien que c'est un peu farfelu, mais que ça correspond à des choses qu'il a entendues sur place.
Alors, ça va avoir une influence énorme, notamment sur la statuaire. On en parlait récemment dans cette même émission avec Michel Pastoureau. On voit apparaître après, sur les chapiteaux des églises, au portail, ces créatures monstrueuses, avec les yeux au milieu de la poitrine.
Sauf que ce n'est pas... Après, c'est avant. En fait, la culture européenne s'intéressait à tous ces peuples, s'intéressait à l'Asie. Elle avait ces récits qui étaient hérités de l'Antiquité. Tout ça, c'est de la culture antique, en fait.
Disons que c'est avant et après. Ouais.
C'est-à-dire... Et alors, on s'était représenté dans les images. Et puis, lorsqu'ils découvrent ces espaces, évidemment, ils vont essayer de faire le lien et de renouveler un peu ces différentes images ou ces différents mythes. Et là où Marco Polo est particulier, c'est que lui, comme il est resté longtemps sur place, sur ce point-là, il est beaucoup plus rationalisant. Il va chercher à démonter un peu ces mythes. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la licorne, qui est un rhinocéros, ou avec la salamandre, qui devait vivre dans le feu. En fait, il dit ça existe, mais ce n'est pas un animal, c'est un tissu qui ne brûle pas. Et donc, Marco Polo va être un peu plus rationalisant, sauf que c'est pour ça que les contemporains se sont méfiés de Marco Polo. Ils se sont dit, quelqu'un qui dit que tout ça, ça n'existe pas ou qui n'en parle pas dans ses récits, c'est qu'il doit avoir inventé, en fait. Il n'est pas allé sur place, parce que s'il était allé sur place, il aurait rencontré ces différents peuples. Et les récits qui vont avoir beaucoup de succès à l'époque de Marco Polo, ça sera par exemple le récit d'un autre franciscain, Odoric de Pordenone, qui lui parle un peu de tout ça, sans l'avoir vu, mais il en parle parce qu'il sait que quand même, dans un récit sur l'Asie, il faut les mettre.
Alors, comment ça va se passer pour le frère Jean de Plancarpin quand il se trouve face à Guyuk? Guyuk, donc, c'est le petit-fils de Gengis Khan, c'est lui qui règne à ce moment-là. À quel endroit déjà le rencontre-t-il?
Au cœur de la steppe, pas très loin de la capitale mongole faite par le père de Guyuk, qui était la ville de Karakorum, mais il le rencontre dans un camp qui avait été dressé à l'occasion.
Dans en fait, un il camp arrive, magnifique.
Parce qu'il arrive, il se trouve que par hasard, il arrive au moment où ce khan devait être intronisé. Donc, il assiste à toute la cérémonie d'intronisation. Et alors, comment ça se passe? Ce qui est intéressant, c'est que Plancarpin porte des lettres de la papauté. Et en fait, les lettres de la papauté reprennent tout le langage des universités de l'époque, qui commencent à inventer les normes juridiques, à parler d'un droit naturel, d'un ordre naturel. Alors, lettres de la papauté demande au grand khan d'abord de se convertir, puis surtout de se justifier de son attaque.
Et ça fait ricaner le grand khan.
Oui. En fait, ces lettres, elles accusent presque le grand khan de crimes contre l'humanité. Elles parlent de l'extermination de populations faites par le grand khan qui a agressé sans aucune cause des peuples et des peuples entiers. Et elles demandent au grand khan quelles sont les motivations. Et alors le grand khan répond en gros à Plancarpin, au pape et aux Européens de l'époque. Il leur répond, mais d'où vous nous parlez, qui vous êtes pour nous accuser et pour nous dire que nous devrions nous convertir. Et il rajoute que si on a réussi à conquérir tant et tant de peuples et qu'on a un tel empire, c'est que Dieu, il est plutôt de notre côté. Donc, qui vous êtes pour nous demander de nous convertir?
Alors, Plancarpin va repartir avec ce message.
Absolument.
Du genre, chacun chez soi, vous n'avez pas de leçon à nous donner.
C'est pas chacun chez soi, c'est chacun chez soi sous la domination de l'Empire mongol. Parce que le message se termine aussi avec une invitation au pape à venir se présenter au cœur de la steppe pour faire acte de soumission.
1247, le frère Jean de Plancarpin rentre en Europe, sain et sauf. Et que fait-il ? Thomas Athanase, il va voir le pape et il lui dit, eh bien, le message du grand camp, c'est « Cher souverain pontife, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est à vous soumettre à mon pouvoir. »
Voilà. Et il précise comment il va falloir faire pour se défendre contre une nouvelle attaque mongole, tout en expliquant que les Mongols commencent à se diviser et que peut-être là, il y a un espoir. En fait, Plancarpin, en rentrant, passe de cour royale en cour royale, de couvent en couvent, le temps d'arriver jusqu'à la cour pontificale qui, à l'époque, se trouvait à Lyon. Et dans chaque couvent il passe, il raconte ce qu'il a vu. Et donc, le récit est mis par écrit. Et il y a même certains frères qui vont recopier la lettre du grand khan qu'on va retrouver dans d'autres manuscrits, dans d'autres traditions. Bien des années après, la lettre a circulé de couvent en couvent. Et donc, il rapporte cette lettre jusqu'à la cour du pape. Et cette lettre, elle existe encore. On peut encore aller la voir aux archives vaticanes. Les Mongols, pour faire une lettre, leur problème, c'était de trouver une langue qui puisse être comprise en Occident. Alors là, ils étaient un peu ennuyés. Donc finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rédigé cette lettre en persan. Et Plancarpin a noté une traduction qui lui avait été faite par des Russes. Après, il la note en latin. Et donc, le texte latin a circulé dans différents manuscrits qui ont recopié le texte que leur lisait Plancarpin. Mais la lettre en persan se trouve aux archives pontificales.
Merci Thomas Athanase. Alors, une histoire absolument palpitante qu'on peut lire grâce à cette édition que vous nous proposez aux éditions Anacharsis, Jean de Plancarpin dans l'Empire mongol. D'ailleurs, il y a d'autres textes, hein, d'autres religieux de l'époque, et c'est très bien éclairé, donc on comprend tous les tenants et aboutissants, et en même temps, on lit une très belle aventure dans l'Empire mongol. Préfacé, présenté, traduit du latin par Thomas Athanase. Et c'est sur cette musique ouïghour du Xinjiang que se termine ce Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son se trouvait Bernard Lagnel, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Chaîne avec laquelle vous allez tourner la page, j'espère, la page 2014. On se retrouve, nous, en 2015, mardi prochain, à 15h. Mais pour l'instant, prenez le temps de vous installer confortablement dans le salon noir de Vincent Charpentier. Bonjour Vincent.